Bonjour, le sujet de notre cours aujourd'hui est langue, culture, approche et activité en langue étrangère. Ça, c'est une thématique très importante parce qu'elle concerne tout ce qu'on pense sur le rapport entre langue et culture. Alors, pour commencer, je vous propose le plan du cours. Alors, la première question est: quelles associations faites-vous au mot culture? Après, je vous propose d'autres questions qui concernent la même thématique. Qu'est-ce que c'est enseigner une langue et ses cultures? On va parler aussi de trois approches en didactique des langues. Qu'est-ce que disent les manuels de FLE, de français langue étrangère? Et un exemple pratique d'un cours que j'ai élaboré pour l'Université de Lyon. Alors, quelles associations faites-vous au mot culture? Là, c'est un nuage de mots. Vous pouvez voir qu'on peut associer tout ce qui vient à la tête quand on pense au rapport langue et culture. C'est une activité intéressante dans la mesure où vous faites émerger des mots, de représentation que les étudiants et vous-même ont de cette thématique. Alors, c'est un bon exercice pour faire avant les débuts d'un dossier et même après pour voir si les notions, les conseils, les représentations ont changé. Alors, quelles sont les questions fondamentales de cette thématique? Alors, dans l'enseignement d'une langue, est-ce qu'on pourrait dire que l'enseignant est censé faire des liens avec la culture ou les cultures de cette langue? Quelles sont les représentations que nous avons sur cela? La langue maternelle fait partie de ce rapport entre langue et les cultures? Quelles sont les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés? Pourquoi est si difficile de traiter un sujet qui fait un lien direct avec la ou les cultures d'une langue? Si l'on travaille en classe une chanson, un texte littéraire, une vidéo, le rapport langue et culture est sous-entendu? Ces questions sont toujours posées par des enseignants en formation. Soit on prend des textes, soit on prend un manuel, la page d'un manuel, et on voit qu'il y a vraiment une difficulté au traitement de cette thématique. Alors, il faut dire que cela n'est pas une thématique récente. Dans la didactique de langue, depuis toujours, on a cette réflexion et on peut identifier des différentes approches sur le sujet. Comment élaborer des fiches pédagogiques? Quels sont les objectifs à atteindre chez l'apprenant? Est-ce qu'on peut enseigner et faire apprendre une culture? Qu'en pensez-vous? On voit qu'il y a trois aspects à considérer pour toucher ce sujet. D'abord parce que c'est une réflexion qui fait un lien avec la diversité. Et on a une remise en cause des stéréotypes et des idées préconçues. Normalement, ça vient à l'esprit des phrases comme « les Brésiliens sont très gentils »,« les Français s'énervent facilement ». Alors, comment est-ce qu'on peut traiter ces genres de phrases dans un contexte de langue? Donc, la première chose, c'est remettre en cause tous les stéréotypes et d'une manière cohérente, sérieuse et intelligente, je dirais. On ne peut pas se raccrocher aux stéréotypes sans faire une réflexion un peu plus complexe. Et pour nous, c'est la langue maternelle. Elle fait partie de cet ensemble. Donc, au début de l'approche communicative, on disait que la langue maternelle n'avait pas de place parce qu'on tous les étudiants et les enseignants, on était en immersion de la langue. Aujourd'hui, plus récemment, on parle des constructions, des connaissances par contraste. C'est Stella Klett dans un article qui traite la même problématique, qui touche cette idée de faire des rapprochements plutôt que dire une culture est meilleure que l'autre. Alors, en didactique des langues, on a trois approches. La première disant que culture était synonyme de civilisation. La deuxième, une culture est reliée à d'autres, donc culture au pluriel. Et plus récemment, on parle de culture et la notion d'interculturel. Alors, par rapport à la première, culture comme civilisation, c'est une approche qui met en valeur les faits historiques, des informations, des personnages, des monuments. Donc, on voit des supports de cours conçus par textes littéraires, enquêtes, textes sur l'histoire de France, par exemple, des biographies de personnages. Qu'est-ce qu'on demande de l'enseignant? On demande qu'il organise ces informations et les valeurs à transmettre d'une civilisation en particulier. Je me rappelle quand j'ai étudié à l'Alliance française, j'étais un peu fascinée par le roi Soleil. Et la première chose à visiter en France, c'était le palais de Versailles. Donc, à l'époque, j'ai pris connaissance de ce moment historique de l'histoire de France et j'ai absorbé toutes les informations que ma professeure nous passait à l'époque. La deuxième approche, c'est quand on voit culture comme synonyme des cultures. Donc on pense à un lien plus pluriel, disons, avec d'autres cultures, mais c'est surtout par l'insertion, le travail avec des documents authentiques. On comprend la culture étrangère par le regard du natif. On a plutôt un effacement de la culture d'origine de l'apprenant. Donc langue et culture sont associées, mais c'est pour connaître, pour décrire, pour savoir en parler. La notion des cultures comme un objet statique. Et les informations dont on se sert, ce sont des informations ponctuelles et livresques. Le rôle de l'enseignant est celui qui transmet des connaissances, des explications, des descriptions sur quelque chose lié à une culture en particulier. La troisième approche, c'est la notion de culture liée à la notion d'interculturel. On voit après les années 80, les années 2000, le fait que la culture fait partie de la communication. Il ne s'agit pas de connaître pour en parler, mais c'est plutôt apprendre à établir des rapports culturels dans la diversité des cultures en relation. Dans ce cas, l'enseignant est celui qui provoque la réflexion. Il invite les étudiants à établir des rapports. On ne met pas ces rapports d'une manière hiérarchique, mais c'est plutôt mettre en valeur la pluralité sans effacer des marques culturelles. Alors, dans cette approche, les questions principales qui apparaissent dans des formations des cours et dans la lecture des textes, c'est quel principe devrait-il avoir l'enseignant pour adopter cette perspective de travail? Quelles compétences on peut éveiller chez l'apprenant si on adopte cette perspective? Et là, pour n'importe quel type de sujet. On peut commencer par une question toute bête, comment saluer une personne en France ou en Argentine? Et le même sujet peut être traité de manière différente. On peut avoir une approche vers l'acquisition d'un comportement. Donc là, c'est la deuxième approche qu'on a vue dans laquelle acquérir des comportements de l'autre, c'est travailler la notion culturelle, ou on peut avoir une approche vers la réflexion sur les habitudes d'une région ou d'un pays. Donc là, vous voyez que c'est différent et la manière de concevoir les dossiers sera différente aussi. Qu'est-ce qui apparaît dans les manuels de français langue étrangère? On a plusieurs entrées pour traiter le sujet culturel en classe. On peut débattre des questions, donc lancer aux étudiants des questions comme celle-là, les Français sont-ils individualistes? Et là, l'enseignant aura tout un travail de décoder un peu cette information par une approche plutôt de comportement ou sinon pour mettre en question les manières d'être dans une société. On peut traiter des sujets à partir des données statistiques. Et là, c'est très courant dans les manuels de français. Et la manière de travailler, c'est la même. Qu'est-ce qui veut dire des chiffres comme 34% des Français allument la télé dès qu'ils rentrent chez eux? Là, pour travailler d'une manière contrastive, on peut nous demander la même chose. Dans la société brésilienne, quelle est la place de la télé? On trouve aussi des textes littéraires. Vous pouvez voir depuis Archipel des poèmes ou des extraits de textes qui proposent, disons, une entrée plus littéraire, et aussi des manuels qui attaquent directement les comportements. Alors, je vous propose quatre phrases pour réfléchir. Nos sociétés sont structurellement marquées par la pluralité et la diversité culturelle. La deuxième, pour comprendre la diversité culturelle d'aujourd'hui, il ne suffit pas de diviser la société en une succession de faits homogènes. Enseigner une langue et ses cultures est apprendre à penser la diversité et pas la différence. Et la lecture des signes culturels suppose des opérations complexes et non pas un simple décodage de signes préconstitués. Là, c'est Martine Pretzel qui discute cela dans un texte que vous allez après lire dans notre salle Moodle. Alors, l'expérience que j'ai eue à l'Université de Lyon, c'était dans le cadre de cours en tant que professeur invité à l'Université de Lyon, et je devrais donner des cours de portugais à un groupe d'étudiants de toutes les nationalités confondues. Et alors, je me suis dit que la démarche intéressante, c'était de partir d'un stéréotype, justement la phrase « au Brésil est le pays du football ». Alors, comment traiter cette thématique pour s'éloigner du regard stéréotypé? Parce que là, c'est une phrase qui circule, mais on peut voir dans notre Brésil comment cela est traité. Alors, dans la première chose, c'est faire une recherche des documents qui abordent les sujets. Je me suis plongée dans la recherche dans plusieurs domaines. Est-ce que cette phrase, le foot, il est présent dans les arts, dans la littérature, dans la musique, dans le monde scientifique? Et j'ai trouvé pas mal de documents. D'abord, trois chansons. Une chanson de 1974, de ce groupe La Tribu Esperança. Après, une chanson de Marcelo D2, la chanson Sou Ronaldo, et une autre de Skank. Mon objectif, c'était de montrer que la thématique, le sujet du football est traité dans différents genres musicaux. Et là, ça a été la première découverte, disons, de manifestations artistiques de la thématique. Après, j'ai trouvé le journaliste qui accompagnait Pelé dans un match de foot quand il a fait 1000 goals, 1000 buts, on pourrait dire. Et cela en 1969. Après, j'ai trouvé chez Carlos Drummond de Andrade deux poèmes. Et ensuite, le document sur le but de bicyclette. Je ne sais pas si on pourrait dire comme ça, mais c'est le premier but marqué par Leonidas da Silva, qui était appelé en 1931 comme Diamante Negro. C'est le chocolat délicieux qu'on a dans notre pays. Parler des célébrités dans le foot, comme Pelé, Ronaldo et d'autres joueurs, et aussi de la personne qui est venue au Brésil pour insérer dans notre société le foot, qui était Charles Mille. Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer par là? Que si on veut travailler un dossier, la première démarche, c'est faire des recherches. Un sujet peut être étoilé vers différents d'autres sujets. Et là, j'ai trouvé une approche qui était multimodale. Donc, différentes manifestations artistiques et en même temps des documents écrits. À partir de là, j'ai fait des activités de langue. Donc, la biographie de tous ces personnages, la présentation, comment on fait dans un niveau A1 de français. Ça a été intéressant parce que c'était justement, je me suis sentie éloignée de la phrase initiale, le Brésil est le pays du foot. Alors, l'activité pratique que vous devez faire, et les pages des manuels sont dans notre salle Moodle, c'est identifier quel type d'approche vous trouverez dans les trois manuels. Donc, prenez connaissance des documents, analysez-les et répondez aux questions. On commencera la classe prochaine, par cette mise en commun de vos découvertes. Voilà, c'est tout.